Voilà, donc bonjour, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi, je vais retirer le masque parce que sinon ça va être compliqué. Mais je pense que là, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, moi ce que je vous propose, je vais faire un peu une petite introduction sur le sujet qui nous occupe. Et puis après, on passera au débat où vous pourrez poser toutes les questions, les remarques, les désaccords, etc., pour qu'on discute ensemble. Vous savez, ça fait 18 mois que donc on vit sous une crise sanitaire, sous la pandémie, et la gestion de cette crise sanitaire, elle a révélé une fois de plus que la société était divisée en deux camps bien distincts, qui ont des intérêts opposés, diamétralement opposés. Il y a d'abord le camp de ceux qui ont profité du Covid, qui ont profité de la pandémie pour continuer à s'enrichir. Et quand je dis qu'ils ont profité du Covid pour continuer à s'enrichir, derrière ces mots, il y a des chiffres et des chiffres qui donnent le tournis. Il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant, parce que le temps passe vite, un journal américain avait estimé, parce que c'est qu'une estimation, parce que ces gens-là ne livrent évidemment pas le détail de leur fortune, avait estimé, avait additionné le cumul de toute la fortune des milliardaires du monde entier. Là, on est sur le monde entier. En 2019, c'était 5 000 milliards de dollars. Et en 2020, l'année Covid, l'année fatale Covid, qui a accentué la crise économique, eh bien, ils sont passés de 5 000 milliards à 13 000 milliards de dollars. Alors, 13 000 milliards de dollars, on ne sait même pas ce que ça représente, on ne sait pas ce que ça veut dire, tellement les chiffres sont fous. Ce qu'il faut retenir, parce que ça, c'est très important dans les idées qu'on défend et dans la situation actuelle, c'est que ce camp-là, cette minorité, sa fortune a explosé. C'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit tout le temps, tout le temps. Si on raisonne sur la France est passée de 39 milliardaires, c'est-à-dire ces familles de grands bourgeois, de 39 milliardaires à 42 milliardaires. Voilà, il y a trois familles de grands bourgeois qui sont rentrées dans le club très fermé des milliardaires. Là aussi, leur fortune a explosé. Alors que le Covid a accéléré, accentué la crise économique. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui ont dû subir de plein fouet, depuis 18 mois, non seulement le Covid, mais la gestion de la crise sanitaire. C'est tous ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation, leur pension de retraite pour vivre. C'est le camp des travailleurs. C'est eux où Macron leur a demandé de faire la guerre au Covid. Et on l'a payé dans notre camp, parmi les travailleurs, parmi les travailleuses, on l'a payé pour un certain nombre de notre vie. C'est les infirmières, c'est les médecins, mais c'est tous ceux qui ont, lors du premier confinement, souvenez-vous, où toute l'économie était arrêtée, tout le monde était confiné, c'est ceux qui ont continué à aller au travail pour faire que le fonctionnement de la société soit au minimum, c'est-à-dire tous les travailleurs de la santé, les chauffeurs de bus, de train, les caissières, les travailleurs de l'agroalimentaire. Bon, eux, ils y sont allés, c'était la fameuse première ligne, ceux qui faisaient la guerre au Covid. Et puis il y a ceux qui, et souvenez-vous des infirmières, à l'époque, quand les premiers malades du Covid sont arrivés dans les hôpitaux, elles n'avaient même pas de blouse, elles s'habillaient avec des sacs poubelles. Ils y sont allés faire la guerre au Covid, ils n'étaient pas armés, il n'y avait pas l'effectif, etc. Mais ça, on en reparlera. Et puis, il y a tous ceux qui ont eu leur activité, ont été mis au chômage partiel, ont eu leur salaire coupé. Voilà, on a payé très cher. Toute cette période, on le paye encore cher. 84%, voilà, il en manque au bout, sauf que le caddie de Leclerc, il est toujours à payer à 100%, les loyers sont toujours payés à 100%. Et puis il y a ceux qui l'ont payé parce que leur entreprise soit a multiplié les plans de suppression d'emplois, les plans de licenciement ou les fermetures carrément d'entreprises et l'ont payé par les licenciements. C'est le chômage qui a explosé, et derrière le chômage, c'est la pauvreté qui a explosé. Voilà, on pourra en reparler aussi, mais on le paye cash, cette gestion de la crise sanitaire. Alors, on le paye cash parce que nous, Macron nous a demandé, travailleurs de la santé, etc., de faire la guerre au Covid. Mais en face, la guerre sociale, ils ne l'ont pas arrêtée. La lutte de classe, il n'y a pas eu de trêve. Les licenciements ont continué. Non seulement ils ont continué, mais ils vont encore continuer. Les attaques vont encore s'accentuer et des attaques de plus en plus brutales, de plus en plus importantes. Pourquoi ? Parce qu'on entend déjà un petit peu, alors pas trop en ce moment, mais ça va s'accentuer après les élections régionales, parce que là, il faut quand même, il y a les élections, donc le gouvernement ne peut pas se permettre quand même de dire toute la vérité, mais il a dans ses tiroirs, et on le sait, des attaques extrêmement importantes pour rembourser, vous savez, le fameux « quoi qu'il en coûte » de Macron. Pendant toute cette période de pandémie, c'était les caisses de l'État étaient ouvertes, elles étaient déjà vides, hein, puisque la France est surendettée, mais elles sont encore plus ouvertes, et c'était un déversement de dizaines de milliards d'euros à fonds perdu dans toutes les entreprises, les grandes évidemment essentiellement, mais c'était « quoi qu'il en coûte », « quoi qu'il en coûte », c'est-à-dire on ne regarde pas à la dépense. Voilà, on soutient les patrons, on soutient les grands patrons. Et ça, il va falloir le rembourser. Et voilà, nous, on est bien placés pour savoir que ceux qui vont rembourser, ce n'est pas les 42 familles de grands bourgeois. Ça va être nous, les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Les chômeurs, là, à partir du 1er juillet, un certain nombre d'entre eux vont avoir une baisse brutale de leur allocation chômage. Alors que le chômage explose, Macron s'attaque aux chômeurs et les font payer. C'est la petite musique sur une nouvelle attaque sur le système des retraites. Système à points, ou alors le passage à 64 ans, etc. C'est des attaques de cet ordre-là. Et face à ça, il faudrait une riposte générale du monde du travail, une contre-attaque d'ampleur de la classe ouvrière. Et on sait qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'en est pas à ce niveau-là. Il y a des résistances, il y a des grèves dans certaines entreprises sur les salaires, contre les licenciements, etc., qui sont plus ou moins connues de la population, plus ou moins médiatisées. Il y a quelques résistances, mais ce n'est pas ça qui va faire reculer le gouvernement et puis le MEDEF, le grand patronat. Alors, aussi parce que ces idées de lutte de classe, ces idées qu'il faut que les travailleurs s'unissent, s'organisent et défendent leurs intérêts pied à pied, elles ne sont absolument pas du tout majoritaires. Ce qu'on entend dans les médias, à la radio, dans les journaux, c'est surtout et avant tout des idées qui ont comme seul point commun des idées qui divisent le camp des travailleurs, qui divisent le monde des travailleurs, qui divisent les opprimés, qui divisent les pauvres. C'est les idées anti-migrants, les idées anti-étrangers, les idées anti-musulmans. Et ça, c'est l'antichambre des idées anti-ouvriers tout court. Et ça, il faut qu'on en ait vraiment, vraiment conscience. On a eu quelques exemples récemment, là, au 1er mai, à la manif du 1er mai. Vous vous souvenez sans doute qu'à la fin du cortège parisien, des militants CGT se sont fait attaquer, se sont fait agresser par des militants Black Bloc, extrême droite ou pas, peu importe, mais c'était... l'attaque, elle était anti-CGT parce que anti-ouvrière, anti-organisation ouvrière, anti-syndicat ouvrier. C'était à mort les syndicats. Voilà. C'est des généraux, certes à la retraite, certes qui ne font que écrire, que parler, mais ils sortent des tribunes pour dire à Macron, bon, si ça se corse, si ça se tend dans le pays, socialement, si y a de la manifestation, s'il y a de la révolte, nous on est là. On est là et on sait faire le ménage. C'est notre métier.
Comme Adolphe Thiers.
Voilà. On sait mater, on sait faire la répression. Ils l'ont fait dans le passé. Hein. Mais ils sont, voilà, ils rappellent qu'ils sont là. Et quand les militaires, quand les généraux commencent à s'intéresser de près aux affaires politiques, à la politique, c'est jamais en faveur des travailleurs. C'est les syndicats de policiers... d'extrême droite qui manifestent de plus en plus, qui avancent leurs revendications. Et c'est ces idées-là qui sont majoritaires dans la société, qui sont défendues dans la société, parmi les médias. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à gauche, ça ne fait pas le compte. Les partis de gauche, c'est aujourd'hui du zéro pointé. C'est la bérésina. Je ne veux pas parler de Fabien Roussel qui va à la manifestation des syndicats de police d'extrême droite, mais c'est récemment...
Fabien Roussel à la résistance, il s'appelait Doriot.
Ouais, attends, laisse-moi finir, mon camarade, laisse-moi finir. Après, on passe au débat et je t'assure, on aura l'occasion de débattre. Par exemple, quand Biden, le président des États-Unis, qui, par un effet de com', je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il dit « je vais augmenter les impôts des riches ». Bon, ou c'est le tournant, le Fabien Roussel, comme Mélenchon, je l'ai entendu à la radio, bon, bah, encensait Biden, pratiquement en disant, bon, bah, Biden, il pourrait prendre sa carte au Parti communiste français. Ou Mélenchon qui dit, Biden a fini le tournant du néolibéralisme, il est pour un impôt mondial, etc. Bon, à gauche, les repères ont complètement sauté, les vannes se sont complètement ouvertes. Alors nous, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on se propose de faire? Pourquoi on se présente à ces élections régionales? Pour défendre quel programme? Et dans la continuité, la campagne des présidentielles où Nathalie Arthaud va être candidate pour lutte ouvrière. Qu'est-ce qu'on défend? On va en débattre après. Qu'est-ce qu'on va défendre comme programme? Qu'est-ce qu'on va défendre comme idée? Ce qu'on défend comme programme aujourd'hui, eh bien, c'est que les intérêts des travailleurs doivent se faire entendre. Pourquoi ? Parce qu'on est à la base du fonctionnement de la société. Sans nous, il n'y a rien qui fonctionne. Alors ce qu'on dit, c'est ceux qui font fonctionner la société, ils doivent la gérer et ils doivent la contrôler. C'est dans ces élections, mais comme tous les jours de la vie, c'est défendre haut et fort le drapeau des idées de la lutte de classe. Ce n'est pas par les élections que le sort des travailleurs pourra changer. Ça, on se présente y compris pour le dire, ça. Parce que ça, c'est une vérité. Quand on regarde l'histoire, c'est uniquement par des luttes sociales, par le combat social, par les idées de la lutte de classe, que les travailleurs, ils peuvent changer leur vie, ils peuvent faire reculer les patrons et puis les gouvernements. Et on veut aussi... expliquer dans ces élections régionales et demain dans la campagne des présidentielles que ce qui est à la base de notre malheur, c'est pas que Macron il gère mal la crise sanitaire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le capitalisme. C'est la loi du profit qui est en train de pourrir la société. Et là-dessus, pour expliquer ces idées, ce qu'on vient de vivre depuis 18 mois, ça nous donne, il y a bien des exemples dont on peut se servir pour expliquer que c'est le capitalisme qui est à la base des malheurs de la société. Quand on dit que ce sont les travailleurs qui font fonctionner la société, bah oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais au moment du premier confinement, s'il n'y avait pas les travailleurs de la santé, s'il n'y avait pas les travailleurs de l'agroalimentaire, pour les autres, pour conduire les trains, les bus et compagnie, la société, elle n'aurait pas pu fonctionner. Quand à 20h, moi je l'ai fait en tout cas, je l'avoue, à 20h, à ce moment-là, quand on ouvrait nos fenêtres pour applaudir, les gens, la population, ceux qui applaudissaient, ils applaudissaient pas les milliardaires, ils applaudissaient pas les Bettencourt, les Muliez, les Peugeot et compagnie, ils applaudissaient ceux qui étaient au boulot, ceux qui étaient en train de risquer leur vie pour les autres, pour le reste de la population. Et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on retienne aussi. À ce moment-là, les travailleurs étaient mis à l'honneur. Alors l'honneur, ça ne paye pas. Et voilà, on veut bien être mis à l'honneur, mais on veut aussi que ça paye. Et si on prend l'exemple du vaccin aujourd'hui, ce scandale du vaccin dans le sens où on sait tous, quoi qu'on en pense du vaccin, on sait tous que c'est par le vaccin qu'on pourra se protéger du Covid. Voilà, qu'on pourra sans doute en finir du Covid. Mais rendez-vous compte comment ça se passe, cette affaire-là. Tout d'abord, et ça, c'est les lois du capitalisme. Ça, c'est les lois de la course au profit. C'est la loi du profit. Chaque laboratoire pharmaceutique privé est allé dans son coin, a choisi sa direction, sans discuter entre eux, sans mutualiser leurs recherches. Voilà, ils ont dépensé les milliards d'argent public, parce que c'est essentiellement l'argent public qui a aider à financer à la découverte de ces 4-5 vaccins qu'on a aujourd'hui. Mais une fois que c'est découvert, notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de doses qui sont produites. Il n'y a pas assez de doses parce que les capitalistes de ces entreprises privées, de ces laboratoires privés, ils gardent bien soigneusement la formule du vaccin Moderna, Pfizer, AstraZeneca et compagnie. Normalement, quelque chose de logique. Et si on pouvait questionner les chercheurs et les scientifiques qui sont à l'origine de la découverte de ces vaccins, eux, ils diraient, mais on met ça sur la place publique, et tous les laboratoires du monde prennent la formule, et on y va, banco, et les 5, 6 milliards de doses qu'il faut pour vacciner l'humanité entière, mais en quelques semaines, en quelques mois, c'est fait, et on n'en parle plus. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que les chercheurs et les scientifiques, si jamais ils font ça, normalement, on devrait leur mettre une médaille pour... service pour la santé publique. Si jamais ils font ça, ils sont mis en tôle, ils sont mis en prison, parce qu'il y a le secret industriel. Il y a le secret industriel et il y a le secret commercial. C'est même au niveau du prix de revient de ces vaccins, de ces doses, on ne sait même pas exactement combien ça coûte. Et on ne sait pas exactement comment ça a été négocié avec les États. Et ces laboratoires pharmaceutiques se sont fait des fortunes colossales. D'ailleurs, le PDG de Moderna, qui est un Français, avec ce vaccin, il est rentré dans le club, dans ces fameux 42 milliardaires français. Il s'est fait une fortune sur la santé publique, enfin sur la santé publique, sur les morts, en fait, il faudrait dire. Sur les morts, sur les centaines de milliers de morts qu'il y a avec le Covid. Parce que ils s'arrogent, parce qu'ils possèdent les capitales, ils possèdent ces entreprises, ils s'arrogent le droit de vie et de mort sur la population. Oui, ils exercent une dictature sur l'ensemble de la société. Alors, qui c'est qui pourrait les forcer à casser ce secret industriel, à casser ce secret commercial, et puis à faire en sorte que les laboratoires privés, ils fonctionnent pas, non pas pour enrichir des actionnaires privés, des milliardaires, des bourgeois, mais que ça puisse fonctionner pour faire une production de ce qu'il faudrait en vaccin pour vacciner et protéger toute la population de toute l'humanité. Bah, les seuls qui sont capables de le faire, ce sont les travailleurs eux-mêmes. Ce n'est pas les États. Alors, vous avez vu, hein, Macron, à un moment donné, il était pour que ça soit public. Maintenant, il est contre. L'Europe est contre, il n'y a que le pape qui est pour. Mais le pape, il ne peut pas grand-chose, hein, dans la société. Ceux qui peuvent quelque chose, ce sont les travailleurs. Oui, il faudrait un contrôle ouvrier sur l'ensemble de sa société. Il faudrait les exproprier. Il faudrait leur dire, bah ça, parce que votre production, elle vaut pour la protection de l'ensemble de l'humanité, elle ne vous appartient plus. Elle appartient à l'ensemble de la société. Et la seule force sociale qui est capable de le faire, ce sont les travailleurs. Ce n'est pas un politicien qui serait élu et qui aurait des belles paroles. Lui, il en est incapable de faire ça. Il n'a pas ce pouvoir-là face aux actionnaires privés. Les seuls qui ont ce pouvoir, ce sont les travailleurs. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui sont à la base du fonctionnement de la société. C'est ceux qui sont à la base de la fabrication des profits. C'est tout ça qu'on veut dire dans ces élections. C'est tout ça qu'on veut dénoncer à travers ces exemples-là, que c'est le fonctionnement économique de la société, le capitalisme qui emmène la société dans le mur. Bon, et il y aurait bien d'autres choses à dire. Alors, voilà, on sait qu'on va faire des scores modestes dans ces élections parce que nos idées, elles sont minoritaires. Elles sont minoritaires pourquoi ? Parce que pour que ces idées, elles prennent de l'ampleur, elles soient majoritaires, eh bien, il faudrait que les travailleurs, ils reprennent confiance dans leur force collective, qu'ils prennent conscience qu'ils ont des intérêts à défendre en tant que travailleurs, en tant que pauvres, en tant qu'exploités, en tant qu'opprimés, face aux capitalistes, face aux bourgeois. Et ça, on n'y est pas encore. Mais ce n'est pas parce qu'on n'y est pas encore que ces idées-là, il ne faut pas les défendre. Au contraire, c'est parce qu'on n'y est pas qu'il faut absolument qu'on les défende aujourd'hui. Notre but, notre conviction, c'est que les travailleurs, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ça va exploser. Je suis convaincu qu'on va y revenir dans le débat. Nous, on est convaincu qu'à un moment donné, ça va exploser. C'est quand ça va exploser, il faut absolument que les travailleurs ne ratent pas le coche, qu'ils trouvent le bon chemin vers des succès, vers la victoire. Et le bon chemin vers des succès et la victoire, ça veut dire avoir conscience contre qui on doit se battre, les bourgeois, et pas simplement Macron. Et pourquoi ils doivent se battre? Pour quels objectifs ils doivent se battre? Est-ce que c'est simplement pour obtenir des augmentations de salaire, là-dessus, si jamais c'est le cas, on prendra, ils prendront évidemment, mais des augmentations de salaire qui seraient mangées 6 mois après, 1 an après par l'inflation. Non, il faut qu'ils se battent pour faire en sorte que les patrons, que le grand patronat, ils puissent reculer et qu'ils puissent, qu'il faut qu'on lui enlève ce pouvoir de nuisance sur l'ensemble de la société. Par rapport au chômage, eh ben, c'est la répartition du travail entre tous sans baisser les salaires. On pourra y revenir, je ne vais pas trop développer, sinon ça va être trop long, mais c'est un objectif pour nous, pour les travailleurs, qui est vital, parce que ça unifie les travailleurs, quel que soit son statut, qu'on soit CDI, précaire, intérimaire ou CDD, mais c'est surtout poser le problème sur le terrain des intérêts des travailleurs et non pas sur le terrain du patronat. Alors, il y a ce programme de lutte que l'on met en avant, l'augmentation des salaires, bien sûr, mais aussi le fait que si les prix augmentent, les salaires doivent augmenter automatiquement. Et on nous pose toujours le problème, mais comment vous financez ça? Eh bien, là, on a une réponse toute faite et qui est maintenant célèbre. Eh bien, c'est quoi qu'il en coûte? Comme Macron. Comme Macron, il a fait pour les patrons. Macron, il ne s'est pas gêné pour dire, eh bien, quoi qu'il en coûte, on donne des milliards et des milliards aux patrons. Eh bien, nous, travailleurs, on doit dire à nos patrons et au gouvernement, on maintient l'emploi, aucun licenciement, on se répartit le travail, on augmente les salaires, quoi qu'il en coûte aux milliardaires, à ces milliardaires qui se sont enrichis sur notre dos, sur le dos du Covid, etc. etc. Alors voilà, c'est un peu tout ça qu'on défend dans ces élections régionales, qu'on va continuer à défendre pour la campagne des présidentielles, parce que ces élections, voilà, ils nous donnent l'occasion de nous exprimer, de défendre notre point de vue, de défendre des idées de la lutte de classe. Eh bien, on s'en prive pas et on aurait tort de bien s'en priver. Et on le fait le plus largement possible avec les moyens que l'on a. Mais on est convaincu que ce sont des idées qui sont urgentes à défendre parce qu'elles sont vitales pour les travailleurs quand ils auront repris confiance dans leur force collective. Et ça arrivera un moment ou un autre.